Du théâtre dans l'éducation.
Rue des Écoles. Louise Touret.
Le théâtre a le vent en poupe chez les enfants et les jeunes. Il ne s'agit pas forcément d'y aller, mais d'en faire. Et ce, dès l'âge de l'école primaire jusqu'au lycée, après, parfois aussi. Une pratique dont la finalité est loin d'être seulement la représentation en public. Mais justement, quelles sont les vertus du théâtre pour les individus et aussi pour les collectifs, les troupes, les groupes? Nous allons aussi parler des lieux où cette pratique artistique continue de se développer, car c'est intéressant, en marge de l'école, via des associations, dans le périscolaire ou en classe, via les options théâtre et les classes spécialisées. Et puis, jouer un rôle, c'est à la fois se transformer, se présenter aux autres, c'est se risquer, c'est évidemment le texte aussi, dans la pratique théâtrale, peut-être quelque chose de subversif qui peut s'y jouer également chez les enfants et les adolescents. Que raconte donc cette envie, ce besoin de théâtre? Nous allons poser toutes ces questions à des invités qui sont très impliqués et totalement passionnés. Robin Renucci et Clémentine Barre du côté des metteurs en scène et acteurs. Et puis Lila Aboudi et Léonore Haas du côté des enseignants. À la fin de cette émission, il sera beaucoup question d'art. Le sculpteur Jean-Michel Autoniel nous fera sa leçon de choses au micro de Sophie Bobert. Écoutez-le, il nous emmènera au musée d'art contemporain de Saint-Étienne, musée qu'il a fréquenté dès son plus jeune âge et qui fut sa véritable école. Et puis, on n'oublie pas les actualités de l'école, ce sera à mi-parcours. Au programme des informations choisies par Marie-Caroline Missire, le numérique selon Jean-Michel Blanquer, la formation des enseignants bouleversée et le feuilleton Parcoursup, évidemment, une rubrique en partenariat avec le magazine L'Étudiant.
Je m'appelle Brian Kououkou, j'ai 16 ans et demi. En fait, je fais du théâtre, ça fait 10 ans que je fais du théâtre et c'est ma passion, quoi. Ça a fait en sorte que je sois encore plus sociable avec les gens, parce qu'avant, j'étais un peu timide. Et voilà, c'est vraiment une activité qui apporte vraiment de la bonne humeur et ça permet aussi de vivre des expériences, voilà, quoi, inoubliables.
Bah, moi, c'est Manel et je fais du théâtre depuis 4 ans. Quand on entre dans la salle, et ben on oublie tout ce qu'il y avait avant et on se concentre juste sur ça et ça aide un peu dans la vie de tous les jours. Ça aide aussi, ben par exemple, enfin, je sais pas comment expliquer, quand on veut parler aux gens. Moi, je sais qu'avant, j'arrivais pas à parler aux gens, que par exemple, depuis que je fais du théâtre, ben, j'ai beaucoup plus de facilité à entamer des conversations, de parler de plein de sujets assez compliqués à aborder, et ça aide.
Le théâtre, maintenant, enfin, dans ces conditions-là, ça aide vachement pour enfin, se développer dans un autre personnage que ce qu'on joue tous les jours, en fait. Donc, je sais pas, découvrir un espèce de soi-même, mais dans d'autres yeux. Je sais pas trop comment expliquer, mais...
Alors, moi, je m'appelle Yasmine, j'ai 17 ans. Je sais pas comment expliquer, mais... Les personnes avec qui j'ai commencé le théâtre, on avait un petit peu tous la même mentalité, parce qu'on a tous commencé ensemble, on avait à peu près tous le même point de vue. Alors que là, on voit d'autres gens, des gens plus âgés, des gens plus jeunes, des gens qui ont fait telle étude, plus cette filière. Plus... Et en fait, ça apporte. Tout le monde apporte son petit grain et du coup, bah.
Ouais, ça permet d'être grave ouvert, en fait, à d'autres textes.
Ça permet d'être grave ouvert, le théâtre est tant d'autres choses. Je voulais faire entendre la voix de ces adolescents, des adolescents qui participent à un programme mis en place par le Théâtre de l'Odéon. Ce programme s'appelle Adolescence et Territoire. Il existe depuis 2012 et il propose depuis donc plusieurs saisons à une vingtaine d'adolescents âgés de 15 à 20 ans de participer à la création d'une pièce de théâtre tout au long de l'année sous la direction d'un metteur ou d'une metteuse en scène. Bonjour Clémentine Barre.
Bonjour.
Voilà, la metteuse en scène, c'est vous. Et la représentation de fin d'année aura lieu aux ateliers Berthier dans dans le 17e. Quelle date? Ouais.
Alors, 15 et 16 aux ateliers Berthier, le 20 à l'espace 1789 à Saint-Ouen, le 23 à Clichy et le 25 au T2G à Gennevilliers.
Voilà, on est dans le nord-est de la capitale, Paris et banlieue réunies. Bonjour Robin Renucci.
Bonjour.
Voici, vous êtes acteur, nul ne l'ignore, metteur en scène, vous dirigez les Tréteaux de France, une scène nationale. Un centre dramatique national. Et on pourra... vous dirigez les Tréteaux de France, un centre dramatique national. Et très bientôt, on pourra voir une de vos nouvelles créations, La guerre des salamandres, c'est bien ça?
De Karel Čapek, un auteur tchèque, à Villeneuve-les-Avignon à partir du 10 juillet prochain.
Et en tournée nationale, une pièce où il est beaucoup question d'écologie.
D'écologie, de totalitarisme et surtout de plaisir partagé entre le spectateur et les auteurs et les artistes.
Et puis on peut parler des 21e rencontres internationales de théâtre en Corse, pour lesquelles aussi vous êtes assez connu. Ce n'est pas la première fois que j'en entends parler. Et elles se dérouleront du 4 au 11 août. Et c'est où en Corse?
Alors, dans une petite vallée de montagne qui s'appelle le Giussani, quatre petits villages à 1h10 de Calvi, dans le nord de la Corse.
Et en fin d'émission, on parlera aussi des MOOC de mise en scène. Je salue les enseignantes qui nous ont fait le plaisir de participer à cette émission, qui nous font le plaisir de participer à cette émission. Bonjour Lily Aboudi.
Bonjour.
Vous êtes enseignante au collège Alberto Giacometti. C'est à Paris, c'est où à Paris?
Oui, c'est dans le 14e, c'est le quartier de Plaisance.
Voilà. Un petit peu du côté du périphérique, c'est assez populaire.
Oui, c'est vrai. On a une population assez hétérogène et des profils d'élèves pas toujours très faciles.
Alors, vous êtes professeur d'anglais, vous êtes coordinatrice d'un projet spectacle musical européen, un projet d'une ampleur énorme, j'avoue que je n'ai jamais vu ça. Ça fait participer plusieurs établissements en Europe, en Angleterre, en Italie, en Espagne. Et puis, vous êtes responsable de la partie technique du Club Théâtre, le Club Théâtre, emmené par Léonore Haas. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes professeur de lettres classiques, donc au même collège. Alors, pourquoi un Club Théâtre? Alors, ce n'est pas un atelier. Alors, on m'a dit le mot club, c'est important. Pourquoi?
Parce que nous pensons faire des choses très sérieuses sans se prendre trop au sérieux et que club nous va très bien et que moi quand j'avais l'âge des élèves que j'ai aujourd'hui, j'allais au club théâtre de mon lycée, le lycée Molière à deux pas d'ici, et on voulait retrouver l'esprit club.
C'est un moment et un lieu qui sont dans l'école mais un peu à côté aussi.
C'est dans l'école, ça a lieu dans l'école, on répétons dans les salles de classe, dans les salles de permanence, on pousse les tables, on pousse les chaises et on y va. Mais ça a lieu le mercredi après-midi, il n'y a pas de cours.
Qu'est-ce qui change dans la relation aux élèves, aux adolescents, quand on n'est pas en cours justement, Lily Aboudi?
Bien, je crois qu'il y a un esprit particulier. Les élèves sont détendus. Je crois que on sent un peu plus de complicité qui s'affirme entre les adultes et les enfants, et c'est très agréable. C'est une relation qui est très agréable à vivre. Et c'est marrant parce que lorsqu'ils se retrouvent en classe, chacun reprend sa place, même si parallèlement à ces phénomènes, on s'apprécie autrement voilà, dans ces contextes-là.
Un monde parallèle, mais qui a son importance. Robin Renucci, vous, j'ai lu que vous avez commencé le théâtre à travers l'éducation populaire, ce sont des moments éducatifs, mais aussi un peu différents, où on n'a pas du tout le même rapport avec ses enseignants.
Oui, j'ai eu la chance de pouvoir rencontrer les milieux de l'éducation populaire et ce qu'ils ont d'extrêmement émancipateur pour des jeunes adolescents. Mais avant cela, je rends toujours hommage à ma première maîtresse, c'est comme ça qu'on l'appelait, à la maternelle, puis au collège, en primaire déjà, puis au collège et au lycée. C'est qu'à chaque fois, j'ai rencontré une enseignante, un enseignant, et j'ai eu la chance que ça commence très tôt, donc bien avant l'adolescence, qui était passionnée par le fait que l'enfant avait sans doute des fondamentaux à apprendre, c'était son travail. Mais elle était, ou il était, lui-même, elle-même, participante à des activités, des pratiques qu'elle avait, ou autour de la poésie, de la lecture, de la représentation théâtrale. Et c'est vrai que le théâtre a pris une place très tôt dans ma vie, parce que j'y étais autorisé, hein, dès l'école. Et bien sûr, hors du temps scolaire, puisque là nous venons de parler d'ateliers au collège Giacometti qui se passent hors de la classe, je n'ai cessé que d'aller à cette rencontre du théâtre hors de l'école. Mais j'insiste beaucoup pour ma part, pour le travail théâtral dans l'école. Et je vais même un peu plus loin, nous parlons, des amis et moi, d'une éducation par l'art et par le théâtre, qui est un outil formidable à la fois de citoyenneté et en même temps de régulation de l'enfant. Depuis l'enfance, il peut passer du bavardage à la parole, il passe de la gesticulation au geste, de l'excitation à la concentration, qui sont autant d'éléments nécessaires à la formation de l'enfant dans le cadre de l'école. Donc ce qui est important, et j'insiste beaucoup, c'est que c'est à l'école que j'ai découvert le théâtre.
Robin Renucci, juste avant qu'on prenne l'antenne, vous avez demandé aux enseignantes dans quel type de collège elles enseignaient. Et c'est pour ça que je vous ai parlé de l'éducation populaire. C'est parce que le théâtre, c'est une pratique qui traverse toutes les classes sociales. On trouve des clubs théâtre avec plein de styles différents, hein, de clubs de théâtre, clubs d'impro, clubs plus classiques, dans énormément de quartiers très différents. Ici, près de la Maison de la Radio, dans le 16e arrondissement, je suis certaine qu'il y a des ateliers théâtre et des clubs théâtre dans les écoles et hors de l'école.
Voilà, j'ai posé cette question parce qu'il m'importait d'entendre que le collège Giacometti, avec ce nom sublime, comme parfois des lieux qui s'appellent Éluard ou Picasso, ne sont pas forcément des lieux extrêmement équipés, extrêmement accueillants même, et hospitaliers pour les pratiques théâtrales en l'occurrence, mais sans être corporatiste, pour simplement l'éducation elle-même. Et que dans certains quartiers, il suffit parfois de nommer un artiste qui devient le nom du lieu pour croire que c'est fait. Voilà. Et on a entendu tout à l'heure des enseignantes qui nous disaient qu'elles poussaient les tables pour faire. Donc ça veut dire qu'il n'y a pas de lieu. Et cet endroit de théâtre nécessaire à faire pour travailler les uns et faire travailler les uns et les autres, ça me semble très important de revendiquer cette autorisation dans l'architecture même de l'école. Donc nous ne sommes pas des artistes donneurs de leçons, nous ne souhaitons pas prendre la place non plus du champ éducatif et scolaire. Mais il est important ce partenariat. Vous voyez, entre les artistes, les enseignants et les élus, pour comprendre que nous travaillons aux mêmes objectifs. Sans doute la citoyenneté, en objectif commun, mais aussi la capacité que chacun soit auteur de sa vie et la chance, dès le départ, dans l'égalité qui devrait être notre République, de côtoyer les œuvres avec une pratique digne de ce nom et faite dans des cadres qui soient dignes également de ce nom.
Et ça demande un peu de moyens, des moyens que vous avez, Clémentine Barre, grâce au théâtre de l'Odéon et peut-être aussi grâce à des élus. Moi, quand j'ai enregistré les élèves qu'on a entendus, alors je dis toujours les élèves, les jeunes,
ce sont les jeunes adolescents,
c'est une déformation, pardon. Quand j'ai enregistré ces adolescents, je suis venue les voir répéter au théâtre
Rue de Boeuf.
Voilà, au théâtre Rue de Boeuf qui est à Clichy-la-Garenne, bon, tout près de Paris. Là aussi, il y a un désir de mêler des adolescents de différentes villes. Ils sont seulement 20, mais ils viennent d'endroits différents. Pourquoi est-ce que c'est important
pour ce projet ? Là, je crois que c'était vraiment une volonté des quatre théâtres partenaires d'essayer de faire se rencontrer des jeunes qui habitent à moins de potentiellement 2 km. Mais quand tu viens de Gennevilliers, même au sein de Gennevilliers, tu ne vas pas aux coutures si tu viens de Gennevilliers village. Et même, tu n'aimes pas forcément trop ceux du village si tu viens du Lut ou inversement. Donc là, l'idée, c'était de prendre 5 jeunes de ces 4 territoires qu'on a rencontrés au cours d'une rencontre un peu audition pour faire rayonner et l'art et le théâtre dans la pratique qu'on va faire avec eux, mais aussi beaucoup pour créer, pour tisser du lien les uns avec les autres dans des... et que maintenant, voilà, il y a plusieurs copains qui vont répéter à Saint-Ouen alors qu'ils viennent de Clichy, c'est peu, mais ce déplacement qui s'opère et qui s'opère aussi par... tout le travail qui est fait avec les relations publiques de ces théâtres en tant que parcours de spectateurs, parce que ça, c'est une des choses très importantes dans la pratique théâtrale, c'est d'ouvrir aussi son regard en tant que acteur ou futur acteur, mais aussi en tant que spectateur, futur citoyen, et créer un langage critique. Donc c'était pour ça, l'idée était vraiment de faire rayonner ces 4 territoires pour en créer un commun lors du spectacle, quoi.
Alors vous parlez de frontières qui se déplacent, de frontières qu'on passe. Il y a la frontière géographique, celle qui se situe entre les quartiers, entre les villes aussi. Et puis, il y a ces limites intérieures. On va écouter encore une fois les adolescents parler des mots qui leur viennent et puis du rapport qu'ils ont à ces mots et puis finalement à eux-mêmes.
Par exemple, avec Antigone, je sais que moi, c'est une langue qu'on utilisait un petit peu avant quand même. Donc, elle est très vieille. Donc, quand on parle comme ça, pour le texte, qu'on dit des mots, des fois même que je comprends pas, Et quand je parle dans la vraie vie avec mes amis, enfin, c'est vrai qu'il y a un gros changement.
Personnellement, enfin, je pense pas que ce soit comme ça pour tout le monde, mais les moments où je me le sens, enfin, où je me sens le plus sincère personnellement, c'est quand j'improvise en fait sur scène, alors que dans la vie de tous les jours, en fait, il y a un certain poids social, je pense. Après, il peut avoir le poids de la scène, mais quand on sent de moins en moins la pression, bah, au final, je pense qu'on arrive à être plus sincère, en fait.
Pareil, comme Léa, je me sens jamais aussi libre dans mes choix de mots, dans mes façons de parler que quand je suis sur scène, que quand je suis face à des gens en général où je vais avoir beaucoup plus de mal, où je vais devoir, pareil, supporter le poids social, en fait.
Mais au théâtre, en fait, il y a un peu un contraste au théâtre quand on dit des répliques et tout ça. Ben, je trouve on peut rajouter un peu son grain de sel, mettre en scène un peu les répliques, mais quand on est avec son entourage, ben on est plus on peut parler de plusieurs choses à la fois, mais voilà quoi.
C'est quand même plus simple au théâtre parce que des fois les gens pensent qu'on peut jouer un rôle ou quelque chose comme ça, donc c'est beaucoup plus simple pour nous de parler. Après des fois faut quand même faire attention, mais enfin même par rapport à notre façon de parler, mais enfin, je sais pas, c'est plus simple.
Robin Renucci, que vous inspirent ces paroles d'adolescent ?
Je les trouve exigeants et c'est ce qui est très touchant, puisque ce sont de jeunes Français qui parlent la langue française, qui est si belle, qui est très souvent abîmée, mais ils savent qu'ils ont un repère, c'est la beauté, c'est le luxe de la belle parole, qui est encore notre inégalité aujourd'hui, très importante. S'il y a des privilèges aujourd'hui, il y a ceux qui ont la langue et ceux qui ne l'ont pas. Simplement, celui qui n'a pas la langue, il ne le sait pas toujours, puisque les mots, ce sont les frontières de sa vie, de son imaginaire, de ce qu'il pense. Donc en ouvrant par la langue, ces mots sont des fenêtres qui donnent des horizons qui s'éloignent à chaque fois à l'enfant, et notamment à l'adolescent. Et la lutte est toujours la même, c'est une lutte contre cette aliénation que nous pouvons avoir les uns et les autres, et la langue en est une. Nous vivons très souvent une société où la langue est une langue d'injonction, par le marketing, par la façon dont on considère l'autre comme un consommateur, on le dirige vers des cibles d'achat, et il est téléguidé dans une langue. Or, la langue du théâtre, c'est la langue de l'inconnu, c'est la langue de l'adresse à l'autre, c'est le fait que lorsque l'on parle, l'autre reçoit, construit, que l'on écoute, qui renvoie la parole par l'auteur, qui est là pour cela, qui est un maître, qui augmente, c'est l'augmentateur, l'auteur. Donc quand des jeunes gens prennent le mot des auteurs, c'est eux-mêmes qui est augmenté, ils sont élevés. Quand ça se passe dans le cadre de l'école, la mission est remplie et supplémentée de cette élévation de l'enfant. Donc prendre les mots des auteurs, c'est les prendre à son compte, et dire des choses qui sont fortes à dire. Quand on dit Antigone à 16 ans pour une jeune fille aujourd'hui, quel acte puissant d'émancipation et d'individuation, vous voyez, de capacité à être soi-même, parce qu'elle y trouve une résonance, un écho. Et les garçons aussi. Il y a aussi, dans les freins, il y a vraiment l'assignation identitaire qui fait qu'on ne joue pas au théâtre parce que c'est pas bien, parce qu'on peut pas se mettre une perruque quand on est un garçon, parce qu'on ne peut pas se travestir ou changer de... Vous voyez, donc tous ces éléments qui sont des freins à l'expression, souvent les jeunes gens ne savent pas que c'est un droit pour eux. Quand on leur donne ce droit, ils se l'octroient et ils savent en faire quelque chose de formidable. Donc la subversivité du théâtre.
Léonora, sur la langue, se mettre d'autres langues en bouche, c'est un enjeu fort pour les adolescents qui viennent au club théâtre et peut-être qu'il devrait l'être pour un public plus large, qui devrait l'être pour davantage d'adolescents et d'élèves, puisqu'avec vous on peut parler d'élèves.
Oui, à nos élèves se sont confrontés à la langue de Shakespeare, puisque nous avons élagué un petit peu, mais nous avons gardé le texte sans le moderniser. Ils ont appris leur scène majoritairement en anglais. Et je dois dire que ça se passe bien. On s'étonnait avec Lily l'autre jour de voir un élève et de ne même pas avoir l'impression qu'il disait le texte en anglais. On a oublié qu'il disait le texte en anglais. Tellement c'est fluide. Et donc, on est fiers de ça.
Lily Aboudi, par rapport aux Français aussi, qu'est-ce que vous voyez en fait s'opérer chez des élèves que vous connaissez entre la manière dont ils parlent dans la vie, la manière dont ils parlent au théâtre et quelle opération on peut se faire ?
La manière de parler, je dirais, c'est le jeu. Enfin, au-delà de la manière de parler, c'est ces situations qui sont mises en scène par Léonore et qui leur donne l'occasion de vivre d'une certaine manière justement une histoire qu'ils n'oseraient pas vivre dans la vie. Et là, en l'occurrence, pour la pièce de Roméo et Juliette, il faut se toucher, il faut s'embrasser, ils sont passionnés et tout ça. Ils apprennent à le faire et ils s'y plaisent au fur et à mesure des séances, et c'est ça qui est très agréable aussi à observer. Donc évidemment il y a la parole qui est un des vecteurs, mais à un moment donné c'est un tout, c'est pas uniquement les mots, c'est un tout. Ils sont à l'aise dans leur rôle et c'est là où on prend plaisir, quoi.
Mais vous leur demandez d'apprendre totalement par cœur et à la virgule près des textes difficiles.
Pas Léonore d'improvisation chez nous.
Et Clémentine Barre, vous vous en faites de l'improvisation avec les adolescents
oui,
aussi.
Voilà.
Pourquoi?
Alors pour moi c'était essentiel. On a un temps qui est très court en fait pour monter ce spectacle. Ça revient presque, ça s'étend sur une année, mais au final on a presque 3 semaines avec des jeunes qui avaient jamais fait théâtre. Je me suis dit que c'était impossible de monter une pièce avec toute la radicalité et l'exigence que j'allais leur demander en tant que interprète et pas élève. Et donc, on est parti sur l'idée de les interroger sur la question de l'engagement et à travers l'engagement, quel héros tu pourrais devenir, quelle héroïne tu pourrais devenir, ou le anti-héros, ou l'héros, ou l'héroïne ordinaire, voilà. Et donc, par rapport à l'improvisation, moi, on a, avec Yann Richard, qui est mon collaborateur artistique, j'ai dirigé des ateliers d'écriture. Ils vont aussi traverser des grands textes comme Antigone, Roberto Zucco et des textes de Lagarce. Et donc, ça va être un mélange de textes à eux qu'ils ont écrits. Mais il va y avoir plusieurs temps de vraie improvisation au plateau. Et je voulais juste revenir sur ce que vous disiez par rapport à juste regarder l'autre dans les yeux. Au lycée, on le fait pas. Dans la rue, dans le métro, au quotidien, c'est difficile. Au lycée, on dit difficilement « je », comme ils ont dit tout à l'heure dans le petit interview. Alors qu'au théâtre, on est transcendé par quelque chose. Soit le texte d'un auteur, soit la situation du jeu. Et à un moment donné, je vais pouvoir te toucher, te dire des choses que jamais... juste après, je pourrais dire. Et c'est pas parce que souvent on dit « Ah bah tiens, t'es actrice, tu peux me dire un texte ou t'es pas timide ?» Les plus grands acteurs sont souvent des gens d'une extrême timidité. Donc le cadre du plateau crée une sorte de magie du possible et d'être avec l'autre tout en étant hyper connecté avec soi-même ou avec son fort intérieur, quoi. Donc voilà, donc nous, ça va être un mix de choses très écrites, très préparées et des vrais temps d'improvisation pour garder la magie de l'écoute, parce que je pense que c'est une des choses les plus importantes dans tout ce que je pense nous traversons tous, c'est être toujours actif dans l'écoute. Donc quand Brian va faire son texte, il y aura les 18 autres au plateau qui seront avec lui. Et on ne sait pas comment eux réagiront, mais c'est cette magie-là qu'on va donner à voir ou à explorer pendant le temps de la représentation.
Robin Remucci, je ne sais pas si vous êtes timide, mais à écouter Clémentine Barre, je me demandais quelle était la place de l'écoute finalement dans notre société. Vous dites qu'elle est faible, et une grande question qui traverse l'éducation en ce moment, c'est celle de l'attention. Parce que l'attention, on dit qu'elle baisse à cause des objets numériques, on va d'ailleurs parler du téléphone portable dans notre page d'actualité, elle baisse dans l'espace social, hein. C'est pas seulement à l'école que les gens sont tentés d'être sur des écrans, c'est même plutôt ailleurs. Cette attention à l'autre aussi, qu'on peut avoir quand on joue, c'est ce que permet la pratique théâtrale et puis même le fait d'être spectateur de théâtre.
Mais oui, bien sûr. Tout à l'heure, je nommais l'assignation identitaire avec la grande difficulté à sortir de soi, parce que pour une raison ou pour une autre, ça ne se fait pas. Les garçons ne font pas de théâtre, ou ne font pas de danse, on ne se regarde pas dans les yeux, comme vous le disiez à l'instant. Et un des autres freins majeurs, c'est en effet la captation de l'attention et des imaginaires que nous vivons. Nos imaginaires, et notamment l'imaginaire des jeunes gens, est capté, est rapté. Et dans les moments d'émancipation dont nous cherchons, j'ai vu que le président de la République aujourd'hui parlait, et depuis quelque temps, d'émancipation, il faudrait nommer de quoi devons-nous nous émanciper ? Quelles sont les nouvelles aliénations ? Donc j'en citais une tout à l'heure, la langue, le privilège d'avoir ou pas les mots, et s'émanciper par la capacité d'élargir son langage, mais également nommer que ceux qui spéculent sur l'attention de nos enfants au quotidien, industriellement, d'une certaine manière, hein, une manière industrialisée par des moyens très puissants qui ont compris que les enfants étaient des prescripteurs d'achat pour les parents et que l'on minore également le cerveau des adultes, que l'on garde comme des enfants, qui sont également axés essentiellement en tant que consommateurs sur un but de leur vie. Eh bien, cette attention, c'est la spéculation collective qui nous est imposée. Donc, redonner du sens à des enfants pour leur permettre d'écouter, de regarder, d'être attentif. Et dans le mot attention, il y a l'ensemble de ces acceptions dans le terme. De se dire que c'est là que ça se passe. Il y a sans doute une réflexion politique à mener et artistique également. Dans les lieux de théâtre, on écoute, on regarde, on laisse l'autre, comme dit Montaigne, parler. La parole est de moitié à celui qui l'apprend et moitié à celui qui l'écoute. Et dans nos sociétés tumultueuses, médiatiques, ça n'est pas le cas. Il y a des flots de paroles qui ne demandent pas à ce que l'autre construise de la langue et du langage en face et réponde. Donc tout d'un coup, on donne à ces jeunes gens la possibilité de se répondre, de se parler. Et c'est là que le début de la démocratie commencerait pour moi.
On va continuer à parler de théâtre, évidemment, dans un instant, et de la dimension de jeu, la dimension ludique de la pratique théâtrale. Mais tout de suite, on retrouve Marie-Caroline Missir et les actualités de l'éducation. Bonjour Marie-Caroline Missir.
Bonjour Louise.
Nous commençons les actualités de cette semaine, toujours en partenariat avec le magazine L'Étudiant, avec l'annonce de la semaine, une nouvelle réforme de la formation des enseignants.
Et dire, Louise, qu'on avait mis plusieurs années à comprendre l'usine à gaz de la réforme de la masterisation. Vous savez, ce tour de passe-passe qui consiste à recruter les enseignants au niveau master et à supprimer l'année de stage au passage.
Ça avait fait beaucoup causer à l'époque. Le dossier de la formation des profs, c'est vrai, nous occupe depuis les années Darcos, qui à l'époque avait voulu enterrer les écoles de formation qu'on appelait les UFM.
Et à chaque ministre sa petite touche sur ce dossier. En 2012, la gauche décide avec Vincent Peillon de rétablir l'année de stage et de créer les ESPE, les écoles supérieures du professorat, intégrées aux universités.
Et aujourd'hui, le ministre de l'Éducation, Jean-Michel Blanquer, ne cache pas son souhait de réformer en profondeur cette formation.
Et cette semaine, la Cour des comptes vient à son secours en pointant les insuffisances de la formation dans ces ESPE, ces nouveaux établissements dont je viens de parler, et en traçant les contours de la future réforme, déplacer le couperet du concours, actuellement situé en fin de M1. Le format idéal, selon la Cour, ce serait des épreuves d'admissibilité en fin de licence, sur les compétences disciplinaires, et puis des épreuves d'admission en cours de M1, sur des enseignements plus professionnalisants. Autre piste, renforcer la bivalence dans la formation des enseignants. Des préconisations confirmées dès cette semaine par les propos du ministre, ce qui provoque l'inquiétude des syndicats enseignants.
On va suivre évidemment ce dossier dans Rue des Écoles. Restons au ministère de l'Éducation nationale. Cette semaine s'y est ouvert un lieu inédit. Nous y étions, Marie-Caroline.
Je vous emmène au service courrier du ministère de l'Éducation nationale, au rez-de-chaussée, rue de Grenelle à Paris. Ces 350 mètres carrés uniformément gris ont été entièrement repensés et transformés en laboratoire d'innovation, le Lab, ouvert à tous, profs, élèves, parents, start-up de la EdTech ou personnel du ministère. Une petite prouesse réalisée en quelques mois par l'ancienne conseillère au numérique de Thierry Mondon, le précédent secrétaire d'État à l'enseignement supérieur. Elle s'appelle Somalie Napa. Et cette initiative a fait un peu tousser dans les couloirs du ministère.
Il a fallu déplacer des bureaux. C'est une création, on n'adhère pas non plus forcément à cette philosophie. Il y a aussi eu des critiques venues de l'extérieur, Marie-Caroline.
Oui, parce que l'inauguration a été très courue et certains observateurs avisés de l'éducation nationale se sont plaints de ne pas être invités, comme notre ami Philippe Ouattrelot, qui dans son rapport au CNIRET, vous savez, ce conseil chargé de l'innovation, remis à Najat Vallaud-Belkacem, avait proposé la création d'un tel lieu. Philippe Ouattrelot s'étonne donc de ne pas être invité dénonce une initiative top-down, dit-il. Enfin, cette inauguration a surtout été l'occasion pour le ministre de livrer les grands axes de sa philosophie sur le numérique éducatif.
On va y revenir. Pour l'instant, le ministre communique surtout sur les téléphones portables et leur interdiction à l'école. La loi interdisant l'usage du portable dans les établissements est examinée à l'Assemblée nationale.
Promouvoir le numérique et interdire le portable à l'école, faut-il y voir une contradiction? Cette mesure fait en fait partie des promesses de campagne du candidat Emmanuel Macron. Et de fait, le portable est interdit dans la plupart des règlements intérieurs.
Ah oui, déjà.
Le ministre, lui, prône le discernement en la matière. C'est son mot-clé. Oui aux usages pédagogiques du portable, rappelle-t-il. Non au tout écran. Il ne s'agit pas de sauter sur sa chaise en disant numérique, 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 souligne Jean-Michel Blanquer régulièrement, mais de discerner entre mauvais usage, bon usage, conjuguer, dit-il encore, le meilleur de ce qui est ancien avec le meilleur de ce qui est moderne, les humanités classiques, l'enseignement numérique, bref, une ligne de crête très macronienne et une volonté affichée, répétée, de réconcilier des visions antagonistes de l'école. Mais c'est vis-à-vis des géants du numérique que le ministère se veut dans une posture beaucoup moins conciliante. Les partenaires, dit Jean-Michel Blanquer, je ne fais pas de différence entre les start-up et les GAFAM, Amazon, Google, etc., doivent adapter leur offre au ministère. Nous sommes un grand service public national, nous sommes forts, nous donnons-le là et les acteurs s'adapteront, a souligné le ministre dans son discours.
Alors, pas sûr que ces paroles qui se veulent rassurantes suffisent. Les partenariats publics-privés qui devraient se développer suscitent beaucoup de méfiance dans ce grand service public qu'est l'éducation nationale. Et puis, il y a évidemment la question des données des élèves, question qui devra être clarifiée dans le futur. Et puis, on reste un peu dans l'univers du numérique. Marie-Caroline, avec une dernière information sur les suites de Parcoursup.
Oui, EducPro, le site de l'étudiant pour les professionnels du supérieur, s'est glissé cette semaine dans une des commissions d'accès à l'enseignement supérieur. Ces commissions planchent depuis le 22 mai 2018 sur les dossiers des candidats refusés sur l'ensemble de leurs vœux. Et c'est assez instructif. En examinant la pile des dossiers, les membres de la commission ont découvert une grande diversité de situations, nous raconte la journaliste Laura Taillandier. D'une part, des candidats qui ont fait des vœux uniques dans une formation au fort taux de pression, c'est-à-dire très demandée. Par exemple, des candidats au BTS tourisme, alors que l'académie n'en compte que 3 ou 4. On voit bien que le risque de refus est malheureusement très élevé. Mais aussi des élèves au projet peu abouti, avec des vœux partant dans tous les sens. Ça, ce sont les commentaires des autorités du rectorat. Ou des élèves qui ne peuvent prétendre à une grande mobilité dans la région. Bon, plusieurs types de solutions sont proposés à ces candidats dans le cadre de ces commissions, des places laissées vacantes sur lesquelles il n'y a pas de candidats en attente, un renvoi en phase complémentaire dans quelques semaines, lorsqu'on a la certitude qu'il y aura des places disponibles dans le futur, un contrat d'apprentissage aussi, voire un rendez-vous avec le CIO pour revoir son projet d'orientation ou encore un suivi spécialisé. Mais on voit bien que le travail est quand même loin d'être terminé. Il reste la procédure complémentaire, je l'ai dit, qui devrait amener une vague de nouveaux candidats malheureux autour des résultats du bac. Et puis, il faut bien le dire, un quart des élèves n'ont aujourd'hui pas de réponse. Ce flux d'enregistrement des vœux des élèves va aller beaucoup moins vite dans les prochaines semaines. Bref, c'est une gageure pour les équipes des académies dans les prochaines semaines.
Merci Marie-Caroline Missire. Et puis très brièvement, il y aura une grosse annonce cette semaine, c'est celle du plan mercredi de Jean-Michel Blanquer, un plan dans lequel il devrait être question de sport et de pratiques artistiques.
Paris est triste à pleurer, y a pas la mer, y a pas ma mère. Et je sais pas ce que je pourrais bien faire. Mes idées noires me désespèrent. J'aimerais tant pouvoir changer d'air. Je veux aller à l'école. Je veux aller à l'école.
Vous Vous écoutez Rue des Écoles sur France Culture. Nous parlons de la pratique théâtrale chez les élèves et chez les jeunes, chez les enfants aussi, dans tous les endroits où cela peut se faire, des clubs, des associations, des classes théâtre. Et ce qu'on vient d'entendre, c'est une chanson qui a été composée dans un cadre scolaire. Lily Aboudi et vous, Léonore Haas, c'est vous, oui, l'auteur des paroles.
C'est ça, c'est moi.
Même la musique, elle a composé la mélodie et puis elle a été retravaillée avec Lana Moreva, qui est une pianiste et AED, c'est-à-dire une assistante d'éducation au collège, qui est musicienne et qui a travaillé sur l'écriture de la musique.
Donc
aussi.
Là, c'est un projet où on danse, on chante, on
Alors,
joue.
C'est un projet où on chante essentiellement, on joue, on danse. Et on fait un film aussi, film qui est, ça y est, qui est réalisé, qui est sorti. Luc Porta en est le réalisateur et il a été donc tourné dans 5 pays différents, 5 pays d'Europe que vous aviez cités au début, donc l'Italie, l'Allemagne, l'Espagne, l'Angleterre et la France, avec des élèves donc de ces pays-là et tous. Jouent dans une même histoire qui où leur destin se croise, enfin le destin de ces personnages se croise pour se rencontrer de temps en temps, se séparer, voilà.
Comme souvent dans les comédies musicales, on les voit danser. Alors moi, c'est ce qui m'a le plus frappé. C'est un film de qualité professionnelle pour les extraits que j'en ai vus, en tout cas, parce que je n'ai pas pu assister à la diffusion. Je voulais m'arrêter sur cette dimension du jeu, cette dimension ludique aussi. Est-ce qu'on a le droit de le dire, qu'on joue, qu'on s'amuse, Clémentine Barre, qu'on fait du théâtre?
Au contraire, je crois que c'est Louis Jouvet qui disait les acteurs, c'est comme les enfants, ils pensent à manger et à jouer. Et quand on oublie de jouer ou de penser juste à la situation, eh ben, au théâtre, c'est mort, ça ne marche plus du tout. Donc, la notion de jeu est de se dire, bah, tiens, si on se disait que, et on se donne la situation et on rentre en plein dans le jeu, que ce soit un jeu absolument tragique ou comique, la notion de jeu est absolument essentielle et c'est ça qui est irrésistible à traverser en tant qu'interprète et irrésistible à observer et à vivre en tant que spectateur.
Est-ce que c'est ça qui reste, Robin Renucci, qui reste subversif dans le fait du théâtre? C'est qu'on continue à jouer, même quand on est grand, même quand on est un adolescent et qu'on joue plus trop à plusieurs dans la cour de récré, et même quand on est adulte d'ailleurs.
Mais oui, c'est regrettable que l'on veuille faire d'adultes des enfants qui sont à peine sortis de l'adolescence, qui doivent être déjà productifs, évalués pour ce qu'ils peuvent apporter à la société, alors que le temps de l'école, c'est le temps justement, comme on le nommait, de l'élévation, de l'osium, de la scolée chez les Grecs, le temps où on est en train de construire quelque chose, et pour le monde, car chaque être humain est un être qui transforme le monde. On lui donne la possibilité ou pas de le faire, justement, il se la donne à lui-même s'il est auteur de ses actes. Donc le temps de l'école, c'est pas le temps de la récolte, c'est pas le temps de la productivité, c'est le temps où on s'élève, très justement. Et c'est pour ça que je rends toujours hommage aux enseignants, aux instituteurs, et que j'insiste beaucoup aussi sur le fait que il faut leur donner plus d'attention, justement. Et dans leur formation initiale, notamment aujourd'hui dans les écoles supérieures du professorat et de l'éducation, il n'y a pas de temps pour cela. Ils doivent être productifs et ils n'apprennent pas à apprendre. C'est le seul métier, d'ailleurs, on n'apprend pas son métier. C'est quand même bizarre. On a des savoirs, mais apprendre à transmettre. Et on a vu que les fondamentaux du théâtre sont les mêmes que ceux de la citoyenneté, sont les mêmes que ceux de l'école. C'est l'écoute de l'autre, c'est le respect de l'autre. Lire, dire, écrire, compter et respecter autrui, ce sont les premiers fondamentaux de l'école. Nous y ajoutons une chose et nous travaillons. Quand je dis nous, c'est un collectif, par exemple, qui s'appelle l'éducation par l'art. Mmh. Et vous pouvez nous retrouver sur Internet, qui s'appelle Pour les Hacks.
Et on mettra le lien sur la page de Rue des Écoles.
Nous faisons tout pour qu'aujourd'hui, le ministre de l'Éducation nationale, qui pourrait avoir notre oreille, soit sensible au fait que les fondamentaux de l'école ne peuvent plus être seulement lire, écrire, compter et respecter autrui, mais lire, dire, écrire, compter et respecter autrui dans l'hospitalité qui est nécessaire aujourd'hui. Donc c'est très important de dire. Le dire, c'est le début de la démocratie, c'est le fait du théâtre. Il n'y a pas que les mots, tous les langages. Et je citerai volontiers Francis Ponge qui disait que servir la République, c'est donner force et tenue à la langue. Donc cette nécessité-là du théâtre, qui est autour des langages, pas seulement des mots, mais bien sûr les mots en premier, puisque j'ai dit que la langue était émancipatrice et j'ai dit aussi qu'on s'en servait comme objet d'aliénation, voire même de ségrégation. Eh bien, c'est la retrouvaille avec la démocratie, avec la citoyenneté, avec le plaisir d'exister, d'être un être humain hospitalier qui aime même la différence de l'autre, pour qui la différence de l'autre est une source. Donc ce travail, il se fait au sein de l'école par tout ce qu'on vient d'exprimer. Donc le lien enseignant et artiste, il est fondamental aujourd'hui. Et j'insiste même sur le fait que les élus doivent être avec nous sur cet endroit-là. Transformer le monde, nous pouvons le faire à partir de cela.
C'est intéressant parce que je vous interrogeais sur la dimension ludique et on est parti très loin.
Mais c'est un plaisir énorme. Vous vous rendez compte de redonner à l'homme le jeu, le plaisir d'exister pour ces 730 000 heures qui lui sont données à vivre quand on parle de 80 ans. On a simplement, pas dans le temps, aliéné au fur et à mesure un peu davantage l'être humain. Donc retrouver la joie d'exister, la joie de s'écouter, de s'entendre, de jouer ensemble, c'est une école, encore une fois, formidable. Et les apprentissages des savoirs peuvent se faire dans le plaisir. Il n'y a pas de raison que ça se fasse dans la douleur et dans la contrainte.
Alors vous dites, Robin Renucci, volonté politique, ça nécessite des moyens. Le ministre de l'Éducation, Jean-Michel Blanquer, il est très porté sur la musique. Pour l'instant, il communique plutôt sur les orchestres à l'école. C'est quelque chose d'assez ordonné. D'ailleurs, qu'est-ce qu'il faudrait comme moyen pour que le théâtre puisse avoir davantage de place, sa place, comme on l'a dit, dans un établissement avec des salles dédiées? Il faut plus d'enseignants.
Alors, tout à l'heure, Léonore disait qu'on poussait les tables. Oui, c'est vrai. Mais on a aussi un projet qui va être réalisé cet été. On a des ateliers, d'anciens ateliers dans la partie ancienne de l'établissement qui vont être transformés en une salle polyvalente et qui, entre autres, servira à créer un espace de répétition vraiment dédié à ça. Donc on n'aura plus à pousser les tables, j'espère, comme on fait.
Comment vous financez vos projets? La comédie musicale, alors, le club théâtre, musicale, je pense que c'est sur votre temps personnel.
Oui, pour ce qui est du théâtre, c'est sur notre temps personnel, mais qui est d'une certaine manière rémunéré. Pour ce qui est du projet Erasmus, c'est aussi un temps personnel parce que tout simplement, le projet est trop complexe pour pouvoir l'intégrer au temps scolaire. Et donc, pour ce qui est des moyens, c'est Erasmus qui a subventionné la grande partie des dépenses qui ont été utilisées notamment pour les déplacements, les voyages. C'est à ça. Et tout le reste, et beaucoup de... Le reste, enfin pour moi, le reste, c'est tout, quasiment. L'écriture des chansons, le fait d'enregistrer, de faire jouer les élèves des instruments, de mixer, etc. Et surtout, la réalisation du film, tout ce travail a été fait bénévolement. Et c'est depuis 2 ans que nous sommes dessus. Et depuis 2 ans, toutes les personnes qui ont contribué à l'aboutissement de ce projet ont donné de leur temps, de leur énergie, sans compter et sans demander autre chose que de constater que ça, finalement, c'est un plaisir aussi de le faire.
Mais c'est énormément de temps donné par des passionnés, et c'est aussi là-dessus que repose l'éducation artistique d'une certaine façon, Robin Renucci.
Mais oui, moi j'admire évidemment, encore une fois, et on a envie de remercier simplement, dans cet esprit citoyen, les enseignantes que vous êtes sur votre temps libre de faire ce travail. Mais j'ajouterais, vous êtes bien trop généreuse. Je trouve anormal que justement on ne reconnaisse pas davantage votre effort, votre travail, et que ce sont des arbres qui cachent la forêt. À la fois, c'est merveilleux, et en même temps, derrière, il y a une quantité d'impossibilités qui sont confrontées à cette réalité-là. Et j'insiste encore sur la formation des enseignants, sur l'éducation artistique et culturelle à l'intérieur de la classe, par la pratique dans le temps scolaire. Et que le théâtre intervienne dans l'école telle que nous venons d'exprimer pour toutes les valeurs qu'il a intrinsèques et pas comme une cerise sur le gâteau, comme le spectacle à la fin de l'année. Moi, je préconise par exemple qu'on commence l'année scolaire avec un moment de théâtre formidable, des artistes dans la classe et on jouerait et on improviserait et on dirait des auteurs et par là même tout serait là. Puisque la parole et la langue seraient le viatique premier de l'établissement du groupe, de l'écoute de l'autre, de la capacité à faire un projet collectif. Car ce qu'il y a d'important en théâtre, c'est le collectif. Dans un lieu où l'école individualise beaucoup, mais ne singularise pas toujours et ne met pas collectivement les uns avec les autres. Donc l'éducation artistique, elle a cette capacité, en effet, de réguler la pulsionnalité et en même temps de permettre à chacun d'aiguiser sa singularité dans un monde uniformisant. Et les enfants sont les premiers à être atteints par cette uniformisation.
Elle est complètement passionnante, cette dimension collective, parce que on entend les jeunes dire « je, ça m'a changé », mais c'est évidemment à l'intérieur d'un collectif. Vous, Clémentine Barre, c'est avec 20 jeunes adolescents, et ils n'ont pas du tout le même âge. En fait, ça va de 15 à 20 ans, c'est très différent à cet âge-là, 2, 3, 4, 5 ans d'écart. Comment ça se forme un collectif, et comment vous arrivez à le créer, à lui donner une consistance et du sens pour chacun?
Alors effectivement, ils sont très différents et ils viennent aussi de milieux sociaux et culturels très différents. Il y a aussi Ali, qui est un jeune migrant qui arrive du Soudan, qui est arrivé il y a 2 ans en France, qui fait partie du projet. Et donc, il parlait pas encore très bien français au mois de novembre et qui parle presque couramment le français. Je pense que le théâtre y est pour beaucoup. C'est la réunion du collectif, exactement ce que disait Robin Renucci à l'instant. La façon dont moi j'ai commencé à les réunir, c'était de les faire travailler aussi sur une langue qui n'était pas forcément une langue orale, parce que les choses se passent comme quand on est dans un pays étranger, on assiste à des choses exactement ce que vous disiez tout à l'heure, ils parlent en anglais, puis on oublie même que c'est de l'anglais, on comprend ce qui se passe. Quand je vais voir une pièce de théâtre dans un pays, je sais pas, en Égypte, je comprends ce qui se passe, ou je trouve que la représentation est mauvaise parce que je sais que l'écoute n'est pas là, ou au contraire la représentation est magnifique parce que l'écoute et la clarté de la situation me parvient malgré la langue que je ne parle pas. Et donc je suis partie vraiment sur les faire travailler au plateau, physiquement pouvoir écrire ton prénom avec tout ton corps et pas seulement avec ta parole, pouvoir imaginer un personnage juste en silence. Et moi, je viens vraiment je travaille de manière très pluridisciplinaire, donc ce que je n'arrive pas à dire, je vais pouvoir le chanter ou le danser à un moment donné. Et ça crée une sorte d'humus et de mémoire collective qui est indestructible. C'est-à-dire qu'après 5 jours de répétition, ils ne se connaissaient. Enfin, il y en avait 3 qui se connaissaient. À la fin des 5 jours, on avait un groupe et on a l'impression qu'ils étaient ensemble depuis plus d'un an. Donc là, c'est vraiment la puissance de l'art et de se dire aussi, ça c'est une chose très particulière qui diffère des ateliers théâtre ou dans l'idée des interventions d'un artiste au sein d'un collège, d'une école ou d'un lycée. Là, l'idée, c'est de créer un spectacle et de pas forcément faire un spectacle de fin d'année. C'est-à-dire qu'on essaye d'avoir une exigence professionnelle à haut niveau, et donc le chemin parcouru est sublime dans tous les ateliers, c'est sublime, mais là on est obligé en plus de présenter quelque chose, donc on verra si c'est à la hauteur de la traversée. Mais voilà, l'idée d'avoir ce spectacle a fait que nous, chaque fin de semaine de répétition pendant les vacances scolaires, ils ont présenté un spectacle au bout de 5 jours, ce qui est absolument fou et qui ne veut rien dire, mais c'est dans cette folie là qu'on va, je l'espère, arriver à toucher à quelque chose de beau dans 10 jours.
Alors, je dois dire que si j'ai choisi de parler du collège Giacometti, c'est parce que on m'a dit, et vraiment ça m'a été dit plusieurs fois, que la qualité était complètement au rendez-vous, tant pour le club théâtre que pour la comédie musicale. Donc je répète, j'ai vu des extraits, et effectivement je trouve que la qualité est au rendez-vous. On va s'arrêter sur la notion de groupe. À l'école, quand on parle de vocabulaire pédagogique, on parle de groupe classe. Alors qu'est-ce que ça veut dire un groupe constitué au sein d'un club théâtre autour d'un projet? Est-ce qu'on est dans la pédagogie de projet, comme on peut parler de pédagogie de projet à l'école, ou est-ce qu'on constitue un groupe nouveau? Et qu'est-ce qui s'y passe de si spécial, Léonora?
On a des élèves qui sont en 6e, en 5e, en 4e et en 3e. Et forcément, donc il y a des petits, des grands, des gens, des garçons qui ont mué, d'autres non. On a un garçon qui va jouer Juliette. Et je crois que tout le monde s'entend très bien. Et ça s'est fait tout seul. En fait, ça s'est fait en disant le texte. Ça s'est fait naturellement. Et voilà.
Oui, c'est un petit peu la même chose qui s'est produit aussi dans le cadre du projet Erasmus, du projet musical, parce que là, il y avait des rencontres entre élèves de sixième jusqu'à la troisième, mais aussi rencontres avec des élèves venant d'établissements étrangers. On avait à chaque fois 5 jours pour filmer avec des élèves venant de 5 pays différents. Et il devait, en très, très, très peu de temps, accepter de jouer ceux qui tombent amoureux l'un de l'autre, alors qu'ils connaissaient à peine le prénom de... Enfin, voilà, il y avait des situations où il fallait être ultra efficace. Donc, ces rencontres se sont développées en ayant, entre autres, recours à la technologie, parce que ils continuaient à s'écrire, à s'envoyer des messages... au-delà du temps de travail, et quand ils se retrouvaient, c'était à chaque fois, il y avait à chaque fois un petit degré supplémentaire de complicité, surtout de complicité et d'amitié, quoi. Et ça se ressent dans le film. On sent bien comment le temps réel et non pas le temps de la narration, en fait, a fait évoluer les élèves acteurs dans le bon sens, parce qu'ils étaient de plus en plus à l'aise. Mais on était contraints par le temps et les moyens, et il fallait faire des choses programmées pour aller dans un film à un moment donné. Voilà.
Ce sont des expériences très fortes pour les adolescents.
Oui.
Nous les avons vécues quand nous étions adolescents. Moi, j'ai jamais autant regardé le monde, regardé mes semblables que quand j'étais au club théâtre de mon lycée. Et ce que j'essaye de faire, je pense que j'y arrive pas, mais j'essaye quand même, c'est de transmettre ce qu'on m'a transmis. Et j'espère que dans 30 ans, un de mes élèves sera là. Pour dire ce que je dis.
Robin Renucci, ce sera peut-être la dernière question, mais elle est très intéressante, cette idée de contrainte, de temps, de groupe, de gens qui ne se sont pas choisis, et l'absolue liberté qui naît de tout ça.
Oui, la création. Créer ensemble quelque chose, parce qu'on est ensemble, chacun dans sa différence, en bénéficiant de la différence de l'autre, et que c'est une chance pour les arts, c'est une chance pour les savoirs, pour la connaissance, pour le plaisir de vivre sur cette terre, que de se rencontrer et de jouer justement ensemble, collectivement, jouer collectif, et non pas dans la course effrénée de l'individualisme dans lequel certains nous ont plongé depuis quelques décennies. Et j'ai plein d'espoir et d'envie et de combat que j'ai envie de mener à ce sujet.
Pour jouer collectif, et Clémentine Barre, je vais vous faire réagir sur cette notion de liberté qui naît de la contrainte.
C'est essentiel, tout artiste se crée un cadre à l'intérieur duquel il va commencer à chercher pour le dépasser, et c'est quand même une belle métaphore de la vie. Je voulais juste rebondir sur ce que venait de dire Robin Renucci et sur ce qu'on disait tout à l'heure sur la question de l'attention et de l'écoute. Au théâtre, on n'est jamais seul, et malgré le peu de moyens, beaucoup de passion, donc ça c'est un vrai problème budgétaire ou de choix politique, mais en tout cas la passion... l'écoute fait qu'on ne sera jamais seul au théâtre, et c'est pour ça que ça marque autant tous les adultes que nous sommes devenus. C'est que tout est possible dans le cadre donné de 1 heure, de 5 jours, de 5 semaines de répétition, et la magie opère parce que l'autre tient tout ce que j'ai pas réussi à dire, et c'est l'autre qui va me sauver par le texte déjà préécrit ou par l'improvisation qui va être mise en place pendant le temps du spectacle.
Merci beaucoup à tous les quatre. Clémentine Barre, je rappelle le nom du projet emmené par le Théâtre de l'Odéon, Adolescence et Territoire. Robin Renucci, on peut rappeler La guerre des salamandres, du 10 au 22 juillet à Villeneuve-les-Avignons et en tournée nationale. Lydia Boudy et Léonore Haas du Collège Giacometti, bientôt peut-être une autre projection de la comédie musicale, et puis bonne représentation de fin d'année pour Roméo et Juliette au MPAA 100 rue Didot à Paris dans le 14e arrondissement. J'ai même pu donner l'adresse exacte tout de suite, la dernière rubrique de l'émission. Et c'est la leçon de choses de Sophie Bobert avec Jean-Michel Autoniel, sculpteur mondialement reconnu. Vous connaissez, j'en suis sûre, son impressionnante entrée de la station de métro parisienne Palais-Royal. Son école, Jean-Michel Autoniel, eh bien, ce fut un musée, le musée de Saint-Étienne, un musée d'art moderne, évidemment.
Dans cette ville, qui est une ville ouvrière, Saint-Étienne, il y avait, pour moi, en tant qu'enfant, il y avait un endroit de rêve et de... comme ça, une île mystérieuse qui était le musée d'art moderne, déjà à l'époque, qui n'était pas dans les bâtiments dont on fête les 30 ans là aujourd'hui, qui était dans l'ancien musée d'art et d'industrie. Donc dans ce musée, c'était une image de la liberté, c'était une image aussi d'être différent aussi. Et très vite, moi, c'est devenu une destination qui était ma destination favorite, parce qu'on me racontait des histoires, parce que je voyais des jeunes artistes qui était là à installer des œuvres au mur, parce qu'il y avait une vie, puis il y avait surtout un ailleurs. Donc moi, très vite, j'ai eu envie d'y retourner. Donc mes parents ont senti ça, donc ils m'ont inscrit au cours du soir des Beaux-Arts, au cours du soir de la Maison de la Culture, où je faisais du dessin, de la céramique et tout ça.
Vous avez eu beaucoup de chance.
Oui, ma mère était enseignante. Donc c'est vrai qu'elle avait ce regard sur le monde, où le monde était toujours porteur de mystères et d'intérêts, et de où il fallait comprendre, où il fallait s'émerveiller, où il fallait regarder. Donc ça m'a aidé à me construire, je dirais, une curiosité déjà. Et puis après, le rapport avec l'art contemporain, qui à l'époque était ultra contemporain, parce qu'on était vraiment dans les années 70 avec ces artistes qui faisaient des bizarreries et qui étaient là et qui étaient vivants. Donc ça, pour moi, en tant que jeune Stéphanois qui allait à l'école communale avec les enfants de mineurs, avec ces mineurs qu'on voyait dans la rue, avec la gueule noire, avec les façades des maisons qui étaient noires, avec cette ville qui n'était pas du tout joyeuse. Aller dans ce musée où les murs étaient blancs, où on y mettait de la couleur, où on parlait d'une certaine pureté aussi, parce qu'il n'y avait pas, il y avait ces grands mouvements minimaux américains, il y avait tout ça qui était montré là vraiment en avant-garde.
Oui, c'est là que vous avez découvert les œuvres en plastique de Tony Cragg, et puis, bon, évidemment, l'œuvre de Picabia. Vous aviez quel âge à ce moment-là, quand vous alliez voir et revoir Picabia ?
Je devais avoir 6-7 ans.
C'est très jeune,
hein ? Oui, c'était jeune, mais en même temps, c'était un endroit tellement, tellement unique dans la ville, que c'était vraiment... C'était l'endroit de joie, donc on avait vraiment envie d'y aller. Mais bon, il y avait ce tableau, moi, qui était mon tableau fétiche. Et puis après, il y a eu des expositions comme Robert Morris, que j'ai dû voir quand j'avais 10 ans, quelque chose comme ça, qui m'ont énormément marqué. C'est-à-dire que je me souviens encore exactement où étaient accrochées les œuvres, quel était le parcours, qu'est-ce qu'on avait le droit de faire et pas faire. C'était vraiment ça qui a déclenché, je dirais, mon désir d'aller aux Beaux-Arts en cours du soir, de me plonger plus dans la création, dans le dessin, dans tout ça. Je ne sais pas si j'étais un bon élève, mais en tous les cas, j'étais à l'aise. Voilà, je crois que je n'ai jamais été brillantissime, mais en même temps, j'ai toujours... en fin de compte, je n'ai pas vu passer ces années. Parce que moi, j'ai un rapport à l'enfance qui est très spécial. J'ai toujours l'impression que j'ai été adulte. J'ai toujours l'impression qu'il me manquait juste les moyens ou la force, ou que les bras n'étaient pas assez forts, ou qu'on ne m'écoutait pas. Mais que j'ai l'impression d'être le même que quand j'avais 4 ans.
L'exposition Face à l'obscurité de Jean-Michel Autoniel se tient en ce moment au Musée d'art moderne de Saint-Étienne. Merci à toute l'équipe de Rue des Écoles, Somanina, Florent Bujon et Marie Dalquier. N'oubliez pas que Rue des Écoles, c'est aussi un podcast. On se retrouve sur France Culture à 17h dimanche prochain. Nous parlerons de football. Et oui, c'est le mondial. Et je vous souhaite à toutes et à tous une excellente soirée sur notre chaîne.